Il est bon de pouvoir prendre la parole de Dieu avec un texte très simple dans son approche, finalement. C'est Jean chapitre 15, versets 1 à 11. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et plus loin, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors Jésus prend ici une illustration tellement simple. Un tronc et une branche. Bien plus, car au bout de la branche, il y a un fruit. Et par n'importe quel fruit, un fruit universellement connu et apprécié, le raisin qui donne le vin. Expérience séculaire et universelle associée à la joie. Et si ce n'est le vin, c'est le raisin en lui-même qui est un fruit excellent. Le Père céleste veut recueillir un fruit excellent de sa terre. Il a créé la terre pour en avoir un bénéfice. Il lui fallait un vignoble. C'est son plus ancien projet, car Dieu aime la joie. Pour lui-même, en lui-même, Dieu est joyeux. J'ai reçu une série de méditations là sur le sujet. On oublie peut-être un peu trop que Dieu aime la joie. Il est la joie, comme il est aussi la paix, l'amour. C'est associé. Et donc, anciennement, il avait planté Israël dans ce but. Mais l'expérience semblait avoir tourné court, d'après les paroles des prophètes, les deux principaux, Ésaïe et Jérémie, sont d'accord. Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Jérémie, chapitre 2, verset 21 simplement. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Tu avais mis de l'espoir dans cette vigne qu'il avait plantée pour en recueillir un excellent fruit. Alors l'expérience, je dis, a-t-elle vraiment tourné court? Eh bien non, puisque c'est de la tribu de Juda que le Seigneur a tiré un nouveau plant de vigne, un nouveau cep. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Jésus a repris la mission que Dieu avait donnée à Israël de produire ce fruit excellent et de donner la joie à Dieu, que Dieu puisse se réjouir de ce qu'il avait, de cette terre qu'il a créée et à laquelle il a donné tous les éléments pour que la joie s'y manifeste. Oui, je suis le vrai cep. C'est Jésus. En lui-même, Jésus est un cep parfaitement saint qui donne des sarments parfaits et un fruit excellent. Et ainsi, Dieu est glorifié sur la terre, il peut se réjouir de ses œuvres. Psaume 104, verset 31. C'est la volonté du psalmiste. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Est-ce que nous désirons que Dieu puisse se réjouir de ses œuvres? Avoir une joie qui le saisisse parce qu'il voit le bon fruit qui se manifeste sur la terre. Ésaïe 65, verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Voilà le projet de Dieu. Dans la Genèse au chapitre 1, verset 31, en fait, nous voyons, même si le mot joie n'est pas prononcé, c'est quand même la même pensée. Dieu vit tout ce qu'il avait fait Et voici, c'était très bon. Et il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour. Malheureusement, au chapitre 6, verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. La joie de Dieu a laissé place à l'affliction. Et c'est bien pour que Dieu puisse retrouver, redonner cette joie à Dieu que Christ a paru. Pour que Dieu puisse à nouveau se réjouir de ses œuvres. Et par le cep qu'il a planté, il ne peut être déçu. Jésus est le vrai cep qui porte le bon fruit pour Dieu. Aucun problème donc, réjouissons-nous avec notre Seigneur, on pourrait dire, un point c'est tout. Et pourtant, Jésus doit nous exhorter à rester attachés à lui. Comment ? Nous ne le sommes pas naturellement ? Ici, je comprends qu'il y a un mystère. C'est que nous sommes des sarments d'importation, en quelque sorte. Ce n'est pas une chose naturelle. C'est l'effet puissant de la grâce de Dieu qui nous a placés en Jésus-Christ par la foi que nous avons manifestée en lui. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, dit Jésus. En annonçant sa parole à ceux qui croient en lui, Jésus les purifie et les rattache à lui. Il les considère comme faisant partie de lui maintenant. Il les irrigue de son esprit et il commence à leur faire produire le fruit. C'est sa seule mission, nous remplir de ce qu'il est et produire le bon raisin. Dans le même temps, le Père agit encore de l'extérieur. Car il est dit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il y a ce que Jésus est pour nous et il y a ce que Dieu continue à faire de nous. Le Père agit de l'extérieur. Alors on sait que les vignerons passent beaucoup de temps à tailler leurs vignes et puis aussi à répandre des produits phytosanitaires pour empêcher les contaminations, etc. Mais ici, cet aspect-là n'est pas présent. C'est uniquement la manière dont Dieu touche à ce que nous sommes, puisqu'il émonde. Il vient couper certaines branchies, il vient restreindre d'une certaine manière la capacité du sarment, avec un but précis, c'est que ce sarment porte plus de fruits. Donc, ce qui sort de nous, on peut dire le Père touche à notre structure, à ce qui sort de nous, au foisonnement de nos dispositions naturelles. Il retranche, il émonde, c'est-à-dire qu'il dirige toute l'énergie du Saint-Esprit vers la seule réalisation qui l'intéresse, c'est le fruit, beaucoup de fruits. Il pourrait prendre peut-être à un vigneron de laisser sa vigne en l'état pour qu'elle ait une belle apparence, beaucoup de branches et beaucoup de feuilles qui seraient peut-être impressionnantes. Mais son but, en tant que vigneron, ne serait pas atteint. Le vigneron passe beaucoup de temps, à une certaine époque, à tailler la vigne. Et il laisse un cep très dépouillé. Et pourtant, à l'automne, il y aura du bon raisin en abondance. Par conséquent, ce qui nous restreint, ce qui nous contraint de la part de Dieu est bon pour le véritable fruit. Nous devons accepter que le Seigneur nous émonde. Reste qu'il nous faut d'abord rester attachés au cep, non pas fixés superficiellement, mais attachés, ancrés et fondés dans l'amour, dira Paul dans un autre contexte en fait. Au point que nous demeurions en Christ, ça c'est l'œuvre de la foi. C'est par la foi que nous sommes attachés profondément à Christ. En fait, pour être pleinement ce que nous sommes à l'extérieur de lui, puisque le sarment est quand même extérieur au cep, il faut que nous soyons pleinement à l'intérieur de lui. Et de là, sa nature fait de nous en permanence le vrai sarment qui porte du fruit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vraiment Christ qui produit le fruit en nous, à travers nous, par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Seigneur énonce d'abord au verset 4 une promesse, hein, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Et puis ensuite, eh bien, il nous donne la conséquence au verset 5. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Amen. Mais le Seigneur ajoute, verset 7, et que, alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est comme une condition qui vient s'ajouter. Que mes paroles demeurent en vous, si j'interprète bien, hein. C'est la façon dont nous allons demeurer en Christ, c'est que ses paroles demeurent en nous. C'est que nous faisions en sorte que ses paroles qui viennent de lui demeurent en nous. Et ce sont ces paroles qui vont vraiment nous attacher à Christ et nous permettre de porter le fruit au point que le Seigneur dit, à ce moment, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je pense que le verset 6 et 7 forment un ensemble. Ne pas demeurer en Christ, c'est ne pas garder ses paroles et finalement être coupé de lui. 6 et 7, je relis. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous demeurons en Christ lorsque ses paroles demeurent en nous. Alors bien sûr, il y a cet avertissement solennel par deux fois, l'avertissement d'être retranché. Inversement, lorsque sa parole fait toute son œuvre en nous, nous serons exaucés en tout. Alors à la fin, c'est l'un ou l'autre, quoi. Alors, selon la mesure de notre foi, bien sûr que ce n'est pas des choses qui sont machinales, automatiques. Ce sont des choses que nous recevons et que nous vivons et qui se mettent en place par la foi. Lorsque nous recevons et que nous croyons vraiment à notre Seigneur, nous recevons et nous laissons ses paroles agir pleinement en nous, alors ces paroles peuvent produire des choses merveilleuses dans nos vies. Versets 9 et 10, Jésus remonte au Père, à sa propre relation avec le Père. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. La relation du Fils au Père est fondée dans l'amour. C'est du Père que tout vient. Jésus, en fait, ne fait qu'étendre à ses disciples le principe de sa propre relation avec le Père. Lorsque nous aimons Jésus, il nous révèle de plus en plus comment lui aime le Père et comment le Père l'aime. Et comment l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils peut se reproduire entre le Fils et les disciples. Et là, le Père peut être glorifié. C'est le Père qui est glorifié. Alors mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Les véritables disciples, ce sont ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, glorifient le Père. Glorifie l'amour du Père, glorifie la sagesse du Père, glorifie tous les attributs, en fait, du Père céleste, du Dieu éternel. Et à la fin, c'est la joie. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dans le nom de Jésus, il y a la joie. Mais cette joie se révèle à travers la tristesse de le voir rejeté par ce monde. En fait, Jésus lui-même, nous avons parlé tout à l'heure de l'affliction de Dieu. Jésus lui-même a pris à son compte, en venant sur la terre, l'affliction de Dieu. Pour pouvoir nous donner la joie, il a expérimenté dans sa nature d'homme l'affliction du Père. Et il en a accepté donc les conséquences et le rejet. Chapitre 16, le rejet par les hommes. Chapitre 16, versets 20 à 24. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira et vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dans cette acceptation de la tristesse et de l'affliction de Dieu qu'a porté Christ lui-même, nous préparons le chemin à la joie. C'est d'ailleurs, bien sûr, ce que le Seigneur Jésus a accepté, le témoignage qui lui en est rendu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 1, parce que ce n'est pas un seul qui doit expérimenter cela, mais c'est l'ensemble des croyants. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, et qui, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus a expérimenté toute l'opposition de la part des pécheurs, toute la souffrance, et la souffrance précise de la croix, en vue de la joie qui lui était réservée. Et maintenant, l'expérience s'est décalée à l'Église, aux croyants, qui entrent eux aussi dans les afflictions de Dieu pour en recevoir finalement la joie. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux commence dans son premier chapitre par dire au verset 9 « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité » en parlant du Fils. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Voilà le résultat de la manifestation de la justice dans la vie de Jésus-Christ. Il a été oint d'une huile de joie. Alors, frères et sœurs, depuis toujours, c'est le cas, mais je peux dire que vous êtes appelés à traverser le reste des temps avec beaucoup d'opposition de la part des pécheurs, avec beaucoup de tribulation, mais aussi avec la joie de Jésus. Et pour cela, demeurez en communion avec Christ, mais avec Christ crucifié. Car c'est en acceptant Christ crucifié que nous connaissons aussi sa victoire sur le péché, sur la mort, sur l'adversaire, et que nous recueillons le fruit de la joie à la gloire de Dieu. Dieu sera alors glorifié à travers ses disciples, ceux qui demeurent en Christ et qui portent son affliction au sein de ce monde. Et il faut reconnaître qu'avec le rejet massif de la foi au sein de notre société, de nos sociétés, parce que ce n'est pas seulement notre petite société française, eh bien, il va falloir vraiment demeurer en Christ dans la foi, l'espérance, l'amour, pour continuer à porter le fruit qui glorifie Dieu et puis pour contribuer à la réjouissance du Seigneur. Vous êtes le plan de Dieu, vous êtes attaché à Christ en tant que cep qui porte le bon fruit et vous serez toujours ceux qui, au sein de ce monde, sur cette terre, réjouissent le cœur de Dieu. Et si ce n'est pas une chose qui vous réjouit vous-même, alors il n'y a plus rien à comprendre. Oui, soyez joyeux en Christ, glorifiez le Père, donnez-lui la joie pour laquelle il a créé le monde. Amen.